Bien, bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue à la librairie L'Harmattan pour accueillir Bénédicte Vidaillet. Alors je suis Thomas Heller, je suis enseignant-chercheur en communication ici à Lille et collègue donc de Bénédicte qui m'a proposé de venir l'assister dans sa présentation et le lancement de son ouvrage « Évaluez-moi ». Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Alors, Bénédicte Vidaillet, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, est enseignante-chercheur, maître de conférence à l'Université de Lille 1, enseignante en gestion. Plus particulièrement, on s'intéresse aux questions de la critique, des études de critique dans le domaine du management. Elle a aussi également publié Les ravages de l'envie au travail. Elle a publié donc « Évaluez-moi », ce qui donne à penser qu'un de ses centres d'intérêt, c'est les liens un petit peu sombres entre les caprices de l'âme et les systèmes organisationnels. Et c'est sans doute de cela dont nous allons parler ce soir, chère Bénédicte. Donc, « Évaluez-moi », « Évaluation au travail, les ressorts d'une fascination », un petit livre que j'ai trouvé super. Super parce que à la fois sérieux, plein de rigueur, aussi très drôle et également extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant concernant ce qui nous pend au nez dès lors que l'on entre aujourd'hui dans les organisations. Alors pour commencer, parce qu'on va commencer maintenant à faire parler Bénédicte, je voudrais lui demander d'abord pourquoi ce bouquin, pourquoi ce livre aujourd'hui, et qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture de ce livre sur l'évaluation?
Bon, alors, juste avant de répondre, je voulais d'abord vous remercier à tous d'être là. Je vois des visages amis, c'est sympa, ça fait plaisir. Merci à Thomas aussi d'avoir accepté d'être là pour animer la soirée. Et puis merci à Thibault et merci à la librairie L'Harmattan. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un lieu d'accueil pour pouvoir débattre de ce type de questions. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre? Parce que j'en avais absolument ras-le-bol. C'est assez marrant d'ailleurs que tu me poses cette question, parce que ça c'est une question pas du tout préparée, donc je te remercie de me la poser comme ça. Je pensais à ça cet après-midi, je me disais finalement, le bouquin que j'avais écrit avant sur les ravages de l'envie au travail, c'était d'abord lié à des choses que j'avais vécues, expérimentées, éprouvées moi-même, donc avant d'en faire un sujet de recherche. Et l'évaluation, je me suis dit cet après-midi, bah, finalement tout ça a commencé en 2007, quand il y a eu les lois Pécresse qui ont en fait introduit massivement, mais très très massivement, l'évaluation des chercheurs, l'évaluation telle que j'en parle dans mon livre, à l'université. Et je me disais, bah, finalement, c'est quelque chose qui m'a vraiment mise très en colère, c'est quelque chose qui nous embête tous les jours dans notre travail. Et là, c'est pareil, je pense que bah, finalement, j'ai eu envie de travailler là-dessus, de réfléchir au sujet, de l'élaborer, je pense, pour prendre de la distance. Donc voilà, je crois qu'à chaque fois que j'écris un livre, c'est à partir de quelque chose qui me touche personnellement et sur lequel j'ai envie de réfléchir après.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Alors, en ce qui concerne le mode de présentation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de t'amener à présenter ton livre, mais de façon aussi à ce que ça puisse susciter des questions dans la salle. Donc, en dire suffisamment pour qu'il y ait des questions qui soient posées, pas trop pour que le livre soit acheté, aussi. Bon, c'est une gymnastique un petit peu difficile, mais enfin, on va essayer de la mettre en œuvre. Ce bouquin a un intérêt, je trouve, qui est aussi d'allier la critique à l'humour et à la dimension militante. Bon, on reviendra sur cette question de ces liens avec l'action. Tu parles d'évaluation. Qu'est-ce que c'est l'évaluation? Quelle forme d'évaluation tu mets ici en cause? Et est-ce que toute évaluation est mauvaise à prendre? Voilà, j'en dis beaucoup. De quelle évaluation tu parles?
Oui, alors c'est vrai que c'est important de préciser, parce que enfin, l'évaluation au travail a existé et existe dans tous les métiers depuis très longtemps, et c'est normal, dans chaque métier, il y a des évaluations de pratiques. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est plutôt une idéologie qui s'est vraiment développée dans tous les secteurs, enfin ça on pourra revenir dessus, et qui consiste à organiser le champ du travail comme une sorte de vaste terrain de compétition, rythmé par des épreuves, donc des séries d'épreuves, avec au sein de chaque séquence d'épreuves des objectifs, quelques objectifs simples, quantifiés, et sur lesquels on va mettre les gens en compétition, et sur lesquels également on va faire dépendre, par exemple, la rémunération, les primes, la carrière, la promotion, en fonction des résultats obtenus à cette compétition. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui se développe. Enfin, je pense
Et ça, c'est nouveau.
ce qui est nouveau, c'est que ça ait envahi comme ça toutes les sphères, tous les secteurs, tous les métiers, toutes les fonctions. Et ce qui est nouveau, donc, c'est cette centralité, parce que du coup, l'évaluation devient centrale. Alors qu'avant, c'était une facette parmi d'autres. C'était, voilà, on évaluait les pratiques. Mais maintenant, ce qui est devenu vraiment. Elle est devenue complètement centrale et elle articule plein d'autres fonctions des métiers. Oui?
Est-ce qu'il y a un domaine où ça a été précurseur, où l'application de l'évaluation comme ça a été généralisée et de par son efficacité, j'imagine, ça s'est répandu comme ça?
Oui, alors ça vient. Déjà, c'est un des États-Unis. En général, les choses pas très bonnes, elles viennent. Ça arrive qu'elles viennent des États-Unis. Et surtout, ça a démarré il y a à peu près 30-40 ans dans des entreprises très particulières, déjà à des fonctions très particulières, les fonctions commerciales. Après, ça s'est développé, et c'était uniquement les entreprises privées dans lesquelles on gagnait de l'argent. Voilà. Après, ça s'est développé il y a une vingtaine d'années au niveau des dirigeants. Et de l'influence de la bourse, donc voilà, et cette idée qu'il fallait rémunérer les dirigeants en fonction de leurs objectifs. Et puis après, ça s'est développé à d'autres fonctions. Donc maintenant, tout le monde, enfin, vous avez des entreprises où tout le monde est évalué, du patron jusqu'à l'ouvrier. Voilà, tout le monde est évalué dans la logique que j'ai présentée avant. Et puis, plus grave, dans tous les secteurs, y compris les secteurs dans lesquels Enfin, on peut encore plus se demander comment on peut en arriver là, la santé, l'éducation, la recherche, tout le champ même de la psychologie, enfin, la psychologie, enfin, la santé, voilà, ça s'est vraiment diffusé partout, à l'hôpital, voilà, et c'est ça qui est préoccupant, et c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir dessus pour comprendre ce phénomène. Voilà.
Et sur la question de l'idéologie, envisager l'évaluation comme une logique, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette question de l'idéologie, sur cette.
Oui, on peut dire que c'est une idéologie, parce que finalement, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Derrière une idéologie, il y a des croyances. Enfin, il y a un petit système de croyances bien articulé. La croyance principale, c'est quoi? C'est que le fait de faire de cette manière serait plus performant. Voilà. D'abord, ce serait plus performant et que tout le monde y gagnerait. À la fois, finalement, ceux qui dirigent et ceux qui travaillent. Enfin, oui, parce que je suis en train de sous-entendre que ceux qui dirigent ne travaillent pas. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Voilà. Donc, ça, c'est la croyance qui articule tout ça. C'est une idéologie aussi parce que cette croyance, elle est diffusée par des relais puissants. Donc elle est diffusée dans les médias, elle est diffusée dans tous les bouquins de management, elle est diffusée à travers l'enseignement. C'est-à-dire maintenant, voilà, ça semble tout à fait normal. On met plus forcément en question le fait de pratiquer ce type d'évaluation. C'est relayé par des institutions qui sont créées pour ça. Par exemple, dans la recherche en 2007, ce qui a été créé avec l'évaluation des chercheurs, c'est l'AERES, l'Agence d'évaluation d'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, pareil pour l'hôpital, on a créé à chaque fois des agences spécialisées qui sont censées ne faire qu'évaluer. Donc, c'est bien une idéologie.
Et pourquoi l'enseignement ou la santé, a priori, c'est étonnant que ces secteurs soient pris sous le feu de ce genre d'évaluation.
Bah, étonnant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, dans l'évaluation, ce qui est central, c'est quand même de réduire tout le travail, enfin toutes les facettes du travail, à quelques dimensions très très simples qui doivent être quantifiables, donc réduites à quelques indicateurs. Et je ne sais pas si je prends l'exemple de la recherche, enfin déjà du métier d'enseignant-chercheur. On pourrait prendre le métier de médecin, mais le métier d'enseignant-chercheur qui est lié à beaucoup de facettes, beaucoup d'activités, le fait de tout réduire à un indicateur qui est le nombre d'articles que vous publiez dans un certain nombre, dans une certaine liste de revues. Et maintenant, on va plus loin, c'est-à-dire, en fait, nous, on va nous calculer, enfin, c'est déjà dans plein de domaines de la recherche, mais même en sciences humaines, on va être évalué sur certains index, le H-index, qui est simplement qui comptabilise le nombre de citations dans de gigantesques bases de données, le nombre de fois où d'autres chercheurs citent nos travaux. Sachant qu'évidemment, plus on travaille sur des sujets à la mode et a priori donc très pointus, plus on va être cité. Et puis du coup, on va avoir des citations croisées. Donc moi, je vais citer 10 collègues parce que je sais qu'eux, ils vont me citer aussi. Ça va faire augmenter mon H-index. Donc voilà, on arrive à dire un bon chercheur, c'est celui qui a un niveau de H-index élevé. Enfin, c'est complètement délirant quand on voit déjà tout ce qu'on doit faire en recherche. Par exemple, ça veut dire que publier un livre comme ça, ça n'a aucune valeur puisque c'est pas compté dans mon H-index. On tient compte que des revues, des articles en revue. Et puis, ça veut dire aussi que tout ce qui est enseignement n'est pas pris en compte. Tout ce qui est vulgarisation de la recherche n'est pas pris en compte. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est encore peut-être plus choquant à la limite. Pour un commercial, ça a des effets pervers, mais on peut comprendre que l'activité d'un commercial, c'est vraiment de faire du chiffre d'affaires, de vendre ses produits à un client. Quand on est dans des métiers qui sont très complexes et très multi-activités, c'est encore plus choquant, enfin, et plus aberrant d'utiliser ce type d'évaluation.
Alors le principal de ton bouquin, la thèse centrale, c'est celle d'une tension, d'un paradoxe entre un côté néfaste de l'évaluation et en même temps une volonté ou un désir d'être évalué. Mais pour commencer, qu'est-ce qui te fait dire que c'est néfaste ? En quoi c'est néfaste ? Sur quoi tu te reposes pour...
Oui, alors le fait que cette forme d'évaluation-là soit néfaste, c'est pas vraiment le cœur de mon livre, c'est juste le premier chapitre. Mais il faut partir de cette hypothèse-là pour comprendre la suite. C'est-à-dire que, ce chapitre-là, il est basé sur toutes les recherches, il y a vraiment beaucoup de recherches maintenant, par des personnes que vous connaissez certainement, par exemple Christophe Dejour, qui est en clinique du travail, montre bien l'effet néfaste de ces systèmes d'évaluation, par exemple sur la santé au travail, parce que ça augmente la compétition, ça individualise le travail, parce que ça augmente beaucoup la pression sur les personnes, parce que ça enlève leur possibilité d'autonomie au travail, puisque ça leur impose de travailler d'une certaine manière, et ça réduit tout le travail à ce qui est en lien avec la réalisation de ses objectifs. Voilà, donc lui, Christophe Dejour et tous ceux qui sont en clinique du travail ont montré l'impact sur la santé au travail. En économie, on a des chercheurs, je pense à Maya Beauvallet par exemple, qui est économiste, qui a recensé toutes les recherches en économie qui montrent, et c'est là qu'on voit bien que l'évaluation c'est une idéologie, donc avec une croyance qui est fausse, puisque la croyance c'est que ça augmenterait la performance. Donc il y a plein de travaux en économie qui montrent que c'est pas du tout le cas, que ça aboutit à des contre-performances. Par exemple, des contre-performances parce que les gens vont tricher, donc en fait, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, ils vont tricher sur les indicateurs, ou ils vont, sans tricher, ils vont s'accommoder avec les indicateurs. Par exemple, alors ça c'est un exemple qu'elle donne qui a été étudié, enfin, dans une clinique américaine, on va mettre des objectifs aux chirurgiens qui font des opérations du cœur assez complexes, assez dangereuses aussi, et il ne faut pas qu'ils dépassent un certain nombre de morts parmi leurs patients. Et à partir du moment où on leur fixe ça comme objectif, ben, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis ? Enfin, qu'est-ce que vous feriez, vous ?
J'opère moi.
Ben, ils choisissent les personnes qui vont opérer. C'est-à-dire, évidemment, ils ne vont pas opérer les cas les plus graves parce que le danger est trop grand, puisqu'ils pourraient évidemment dépasser leur objectif. Et dans ce sens-là, il vaut mieux pas le dépasser. Bon, voilà. Et donc ça aboutit à des contre-performances. Ça veut dire que certaines personnes ne vont pas être soignées. Et donc, comme elles vont pas être soignées, finalement, elles vont plus mourir. Mais ce sera pas la faute des chirurgiens. Bon, et on peut multiplier comme ça les exemples. Si on regarde le domaine de la recherche, évidemment, le fait d'avoir des indicateurs comme ça fait qu'on va tricher avec les règles. Là où avant on publiait un livre avec une thèse assez complexe, avec des idées qui se répondaient de chapitre à chapitre, eh bien on n'a plus intérêt à faire ça, on a intérêt à saucissonner la recherche pour publier dans différentes revues, sauf que du coup on va perdre la complexité des idées parce que finalement souvent quand on fait la recherche, ce qui est intéressant c'est l'aspect synthétique. C'est tous les liens qu'on va tisser. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ça produit des contre-performances, ça produit des effets de triche, ça produit des effets sur la santé au travail, ça produit de la démotivation. Donc là aussi, par rapport à cette idée fausse qui consiste à penser que si vous mettez les gens en compétition permanente avec une politique de la carotte et du bâton, que ça amènerait à les gens à être plus motivés, c'est complètement faux. C'est de la motivation à très court terme. Ce qu'on observe sur le long terme, c'est que les gens perdent leur désir de travail. Hein, leur désir de travail, c'est-à-dire qui est une forme de, si on simplifie un peu, de moteur interne qui nous pousse à travailler parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime le contenu de ce qu'on fait. C'est très clair en recherche, mais dans plein d'autres domaines, c'est la même chose. C'est que à l'université, par exemple, on entend des gens qui ne se préoccupent que de la publication en revue, du rang de la revue, etc. Et on ne parle plus du tout du contenu, même des recherches. Et or, qu'est-ce qui motive vraiment un chercheur? Au fond, ce n'est pas vraiment son H-index, ou c'est ce qu'il fait, c'est d'être fier de ce qu'il fait, c'est d'être content de progresser dans sa réflexion, etc. Et en fait... cette évaluation-là, elle va nous éloigner de notre désir de travail. Cette logique de la carotte et du bâton va finir par tuer notre motivation intrinsèque. Et en plus, ça, c'est très connu depuis très longtemps. Je pense que vous connaissez, il y en a certains ici qui travaillent dans l'enseignement et en pédagogie de l'éducation, c'est très connu. C'est cette expérience où on prend deux groupes d'enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un groupe d'enfants, on les fait dessiner tous les deux. Il y a un groupe d'enfants à qui on propose de dessiner librement, et puis l'autre groupe d'enfants à qui on propose une petite récompense pour ceux qui font les plus beaux dessins. Et sur le long terme, on se rend compte que finalement, ceux à qui on ne donne rien dessinent de mieux en mieux et surtout sont toujours aussi créatifs dans leurs dessins et ont toujours autant de plaisir à dessiner, et que les autres qu'on a éduqués sur le principe, bon là il n'y a pas de bâton mais il y a la carotte, c'est l'image, le bon point, etc. Ceux-là se désintéressent au fur et à mesure de leur dessin et surtout font des dessins de moins en moins créatifs. Donc, et ça, c'est une expérience des années 60 qui est très très connue. Hein. Donc ça fait longtemps qu'on sait tout ça. Donc ça, pour répondre à ta question, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de recherches qui montrent que les effets sont globalement néfastes.
Oui, cet exemple, je trouve assez super, de Ike and Carr. Ce chercheur fantôme.
Ah oui, ça c'est un chercheur qui a inventé, en fait, simplement en utilisant tout le principe, les principes de fait, comment on peut créer de faux H-index, de faux indices bibliométriques, enfin, comment on peut utiliser le système, tricher un peu avec le système, pour arriver à avoir un H-index élevé. Donc, il a fait c'est un petit peu long à expliquer, je pense que je vais pas développer l'exemple. Mais bref, il a inventé de toutes pièces un chercheur fictif, et ce chercheur fictif, du coup, il a commencé à être cité par d'autres dans le domaine en question. Il a commencé à être cité dans les bibliographies, etc. Et il a fini par avoir un H-index, par exemple, plus élevé qu'Einstein, plus élevé que Freud, en seulement un an. Donc c'est comment on peut réussir en jouant avec le système, parce qu'on a bien compris le système de citations croisées, etc., de référencement dans les moteurs de recherche, comment on peut réussir à fabriquer de toutes pièces un chercheur qui serait très très connu, qui aurait une très grande réputation, parce qu'il a un H-index élevé, alors qu'en fait, il n'existe pas. Bon, voilà, enfin ça, c'est un petit exemple.
Oui, mais il est...
assez parlant. Mais
bon. Alors, l'évaluation, bon, dans la recherche universitaire, comment dire, la méthode d'évaluation me semble assez simple. Dans les entreprises privées, il y a, enfin, on vous demande de gérer X tableau de bord afin justement qu'on puisse évaluer votre travail. Ça coûte un argent fou.
Oui, alors,
on en est au point où je pense que les gens qui doivent recharger les distributeurs automatiques de boissons ou autres, on leur demande le soir. S'ils le savent, de faire des tableaux Excel avec ce qu'ils ont fait, la façon, enfin je...
Oui, oui. Alors justement...
C'est délire.
Dans les effets pervers, il y a les coûts.
Les coûts, oui.
Ça coûte très très cher, toute cette évaluation généralisée. Voilà, ça coûte très très cher. Nous, à l'université, on passe un temps fou maintenant à évaluer. On ne parle plus que de ça. Enfin, et en entreprise, vous avez des services entiers qui travaillent sur la question de l'évaluation.
Et c'est... Oui, d'accord.
Ça fait longtemps. Enfin, je sais pas. Trop longtemps, si.
Bon. Donc, c'est nuisible, dis-tu. Là, on arrive au cœur de ton livre. C'est nuisible, dis-tu. Et pourtant, nous aimerions, nous souhaiterions être évalués. Comment t'expliques ça?
Oui, alors, en effet, c'est le cœur de mon argumentation. C'est que, et ça j'ai mis assez longtemps à arriver à cette idée-là, c'est que pour moi il y avait vraiment un paradoxe. Il y a tous ces travaux qui montrent que c'est nuisible, il y a le fait que les gens s'en plaignent, il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent des conséquences de l'évaluation, qui disent « oh là là, moi j'en peux plus, j'en ai marre de tous ces objectifs, oh là là, ça me met une pression, tu peux pas savoir », enfin bref. Et puis finalement ça se développe. Bon, ça se développe pas tout seul. Et finalement, j'en suis arrivée à poser l'hypothèse que ça se développait. C'est aussi ce que j'entendais, hein. C'est pas une hypothèse que j'ai inventée. C'est, il me semblait entendre cette ambiguïté par rapport à l'évaluation. Et donc, j'en suis arrivée à poser l'hypothèse que finalement, on a quand même envie d'être évalué. On a un désir d'être évalué. Et j'ai essayé de comprendre sur quoi ça s'appuyait, pourquoi, au fond, on est prêt à supporter quelque chose qui nous fait vraiment du mal, pourquoi on l'appelait de nos voeux. Voilà, et donc j'ai essayé de trouver... Alors, sachant que parfois, on peut vouloir quelque chose qui nous fait du mal, mais au fond, qui va peut-être quand même nous faire du bien, sauf que là, à la fin, ça nous fait vraiment du mal. Donc, c'est voilà.
Et c'est là que la psychanalyse entre en jeu pour...
Voilà.
Tenter une explication de ce phénomène, et en particulier les travaux de Jacques Lacan. On va peut-être pas développer trop les travaux de Jacques Lacan, simplement dire sur quel concept tu t'es appuyé, sur quelle notion tu as.
Alors, je vais peut-être pas développer les concepts, mais par contre, ce que j'ai finalement identifié, c'est un certain nombre de causes. Alors, je pense qu'il y a... Bon, par exemple, il y a des causes, enfin, dans le fait qu'on voudrait être évalué, il y a une cause qui, un groupe de causes qui, pour moi, relève de notre rapport à nous-mêmes. Alors, je dis ça pour le distinguer d'un autre groupe de causes que j'ai appelé plutôt, enfin, c'est plutôt les causes qui relèvent de notre rapport à l'autre. Donc, dans les causes qui relèvent de notre rapport à nous-mêmes, bon, par exemple, dans l'évaluation, il y a une promesse narcissique. La promesse narcissique que nous fait l'évaluation, c'est on va vous montrer les bons modèles. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon chercheur? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon enseignant? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon médecin? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon vendeur? Hein, donc ça nous donne des modèles. Enfin, on pense que ça nous donne des modèles. En fait, c'est des modèles qui sont réduits à des caractéristiques très simples. Hein. Si on en arrive à dire qu'un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a un H-index supérieur à temps, au fond, c'est un peu simpliste, mais en tout cas, ça donne des modèles, ça donne des sortes de points de référence, des modèles à qui on pourrait ressembler. Ça nous dit ce qu'il faut être. Et puis, ça nous dit aussi qu'on va pouvoir s'améliorer, parce que la promesse de l'évaluation, c'est toujours « on va vous évaluer pour aussi que vous puissiez vous améliorer ». Hein, à chaque fois, on va vous dire où vous en êtes, puis comme ça, vous pourrez faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, il y a une promesse narcissique dans l'évaluation. Autre chose, donc toujours dans ce premier groupe de causes, je pense que l'évaluation propose de s'éprouver, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est dans les tout ce que j'entendais, ou soit quand je reçois quelqu'un comme psychanalyste, soit à l'université dans mes recherches, il y a quelque chose, je trouve, qui se développe beaucoup, c'est les gens parlent de challenge, voilà, c'est important de vivre un challenge. Il y avait cette idée qu'il fallait s'éprouver, finalement. Et c'est vrai que l'évaluation nous fait croire qu'on va pouvoir s'éprouver. On va être dans un challenge, dans une épreuve. Et finalement, le travail devient une série d'épreuves. C'est-à-dire chaque nouvelle séquence d'évaluation nous fait nous engager dans une nouvelle épreuve. Et donc après, je me suis dit, finalement, à quoi ça renvoie cette idée d'épreuve, de s'éprouver? Et je pense que ça renvoie en effet à l'illusion d'avoir une consistance par le fait que finalement, traverser une épreuve, c'est traverser une forme d'épreuve de réalité. Donc ça, c'est un concept psychanalytique. Ça nous met dans une forme d'épreuve de réalité où on a un objectif précis, on a un cadre, on a une limite temporelle, etc. Et je pense que dans des organisations de plus en plus déréalisées, dans lesquelles les gens savent plus ce qu'ils font et savent plus pourquoi ils travaillent, ça change en permanence. Ils ont une sorte de valse des chefs, où parfois les chefs, ils ne les voient pas. On leur parle de flexibilité, de polyvalence, donc où il y a une forme de déréalisation. Ça réintroduit, mais sous une mauvaise forme, une forme d'épreuve de réalité qui permet de s'éprouver. Troisième point dans ce grand groupe de coach, je ne vais pas tout vous dire évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant. Alors je ne sais pas si, enfin je ne pense pas que vous regardiez Masterchef. Si ? Bon, moi j'ai regardé Masterchef parce que je m'intéressais non pas à la cuisine mais à l'évaluation, en fait. Je dois l'avouer. Enfin, vous connaissez le principe quand même de Masterchef. C'est une émission, ça doit être sur TF1. Je crois que c'est TF1. Okay. Qui consiste à sélectionner, ils partent de 20 000 candidats. À la fin, il en reste un. Et alors, il y a une première sélection. Donc, l'émission commence quand on a les 100 candidats, seulement 100 candidats qui restent, heureusement, parce que sinon, ce serait un peu long. Et après, il y a un découpage, chaque émission, nouvelle émission, étant basée sur l'élimination d'un certain nombre de candidats qui sont censés, alors qui doivent subir des épreuves de cuisine. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, voilà, on va voir que les meilleurs sont ceux qui restent. Et ce qui est très intéressant dans Masterchef, c'est que chaque émission commence par le rappel des candidats de l'année précédente. Et à chaque fois, on leur présente... Enfin, on les présente comme, même s'ils ont perdu, parce qu'évidemment, à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Donc, bon. Donc, finalement, tout le monde est perdant, quasiment, sauf un. Mais ceux qui ont perdu sont quand même présentés comme, parce qu'ils ont vécu une épreuve, et parce qu'ils ont quand même, ils sont quand même allés assez loin dans la compétition, leur vie aurait changé. Voilà, c'est parce que j'ai participé à Masterchef, ma vie aurait changé. Donc dans l'évaluation, et ça c'est vraiment basé sur les principes de l'évaluation, de l'évaluation qui permet à chaque fois d'éliminer un certain nombre de candidats. Et donc là c'est très très flagrant, c'est la promesse, c'est vous pouvez devenir de nouvelles hommes, de nouveaux hommes ou de nouvelles femmes parce que vous avez participé à une épreuve. Donc ça, c'est flagrant dans Masterchef, mais à un niveau plus modeste dans le travail, il me semble que la promesse de l'évaluation, c'est à chaque nouvelle épreuve, vous pouvez éventuellement montrer qui vous êtes. Un nouvel homme, une nouvelle femme, vous pouvez renaître de vos cendres, même si vous étiez mauvais, tout ça, on s'en fout. À chaque fois, on remet les compteurs à zéro, ce qui évidemment est complètement illusoire, enfin, c'est un mensonge parce qu'on sait très bien qu'on ne met pas les compteurs à zéro, mais ça peut fonctionner de manière illusoire et ça permet finalement d'être dans cette illusion qu'on pourrait effacer son histoire. Alors évidemment on sait très bien en psychanalyse que c'est impossible d'effacer son histoire, de toute manière c'est toujours, ça agit toujours et puis c'est ça qui nous constitue et heureusement qu'on a une histoire, mais la promesse de l'évaluation c'est vrai que sa propre, son histoire et ce qu'on a accumulé, ça peut être lourd à porter. Donc, à chaque fois, soyons dans l'illusion qu'on pourrait renaître de nos cendres et ce qu'on a raté avant, on pourrait le réussir enfin.
Ça dédramatise l'élimination.
Ça la dédramatise.
Et renaître de ses cendres meilleures.
Oui, sauf que la réalité, c'est que finalement, ça crée beaucoup de souffrance. Mais il y a toujours cette histoire, parce que finalement, quand on est éliminé, on est éliminé. Enfin, c'est quand même très, très difficile à réaliser. Oui.
C'est intéressant ce que vous dites. Alors, l'évaluation, moi, je la suis effectivement depuis 2007, là où l'évaluation s'est attaquée au secteur santé, recherche, etc. Et en particulier via le collectif de l'époque qui était l'appel des appels, voilà. Donc, qui a bien posé le diagnostic. Et là, simplement en vous écoutant, est-ce que, enfin, je pense que derrière, il y a une idéologie, hein, vous n'avez pas donné le nom de l'idéologie qui sous-tend
un libéral,
petit peu, tout ça.
C'est voilà. L'idéologie libérale,
voilà.
C'est clair.
Et justement, ces aspects psychanalytiques que moi, je ne connais pas, hein, je suis en dehors de, je ne connais pas du tout. Mais il y a une évolution aussi des aspects management en prenant en compte ces aspects-là. Donc, est-ce que simplement vous n'êtes pas en train de déconstruire ce qui finalement sous-tend l'ensemble, puisque
si oui mais, enfin ouais. Déconstruire dans le sens enfin si j'essaie de comprendre finalement ce qu'il y a de séduisant dans cette idéologie libérale, on pourrait formuler les choses comme ça, et en quoi on en est complice, parce que c'est là que je me différencie des travaux comme Roland Gori par exemple, qui était très en pointe au niveau de l'appel des appels, c'est que pour moi ce qui ne fonctionnait plus c'était de considérer que les gens étaient simplement des victimes de l'évaluation. Parce que je me disais, c'est pas possible, il suffisait d'écouter en fait le discours, d'écouter, enfin de voir au sein de l'université la mollesse quand même avec lesquelles on résistait un peu, mais finalement quand on regardait, les gens ils se laissaient envahir. Et puis bon, ça, qu'en psychanalyse, cette notion de victime, on n'y croit pas trop non plus. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à poser cette hypothèse qu'on est quand même subjectivement complice de l'évaluation. Donc c'est complice finalement cette idéologie libérale qui nous fait un certain nombre de promesses auxquelles on aurait envie de croire. Si ça marchait, ce serait très bien, on pourrait y croire, sauf que ça marche pas.
Alors tu parlais du rapport à l'autre aussi.
Oui, alors il y a un autre groupe de causes qui me semble important. Alors j'y suis arrivée parce que à chaque fois que je faisais des entretiens sur l'évaluation, enfin où j'essayais de comprendre au fond, comment les gens réagissaient par rapport à l'introduction de systèmes d'évaluation, etc. À chaque fois, mais alors dans chaque entretien, enfin quasiment chaque entretien, ça m'a vraiment marqué, même les gens qui critiquaient l'évaluation finissaient toujours à un moment par dire « Bon, d'un autre côté, au moins avec ça, monsieur machin, qui est un vrai tir au flanc, qui en fout pas une dans le service, au moins, lui, il arrêtera de rien faire. » Bon, ce qui est complètement illusoire, parce que les gens qui trichent avec le système, il y en a toujours quelques-uns, il y en a souvent très... Enfin, pas beaucoup, quand on regarde bien. Et ceux-là, ils finissent toujours par s'arranger avec le nouveau système. Donc c'est complètement illusoire. Et donc la récurrence de cette remarque-là, qui était qu'il y avait toujours quelqu'un qui foutait rien, et que l'évaluation aurait pour fonction de rétablir la vérité, c'est-à-dire de montrer enfin... que certains, alors c'est toujours les personnes qui m'ont raconté ça, évidemment, ne sont jamais, elles, dans les tirs au flanc. C'est-à-dire, le tir au flanc, c'est toujours l'autre. Et il y a toujours cette idée qu'avec l'évaluation, on va rétablir la vérité. C'est-à-dire que ceux qui foutent rien, on va voir qu'ils foutent rien. Et moi, qui travaille beaucoup plus que les autres, on va enfin, non seulement m'évaluer à ma juste mesure, mais on va aussi me donner les récompenses que je mérite. Donc, en gros, c'est toujours ça. Et donc, derrière, il y a quand même une idée de l'autre qui est négative. Il y a ce fantasme de l'autre comme voleur de jouissance. C'est-à-dire, au fond, si ça ne va pas dans le travail, si ça ne va pas... c'est la fonction classique aussi du bouc émissaire, mais si ça ne va pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous vole notre sérénité, qui nous casse la motivation, parce que lui, il ne faut rien, etc. Et donc, il y a l'idée très naïve que, grâce à l'évaluation... ces voleurs de jouissance vont être éliminés et que enfin tout va bien fonctionner. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une raison très 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 importante et qui est en plus renforcée par quelque chose qui est propre au travail, c'est que alors les chercheurs en clinique du travail ont montré que pour bien travailler, on a besoin une certaine part de secret. Ça, c'est par exemple Christophe Dujour, il est très clair là-dessus. C'est une idée que je trouve très intéressante, c'est que On a tous besoin de développer nos trucs, nos ficelles de métier, les choses qu'on fait sans forcément le dire, parce que bon, voilà, on se débrouille avec... Travailler, c'est se débrouiller avec le réel. Et donc, c'est pas forcément faire ce qu'on devrait faire, mais c'est faire ce qu'on pense qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc, pour bien travailler, il faut une certaine part de secret. Or, le secret, c'est quelque chose d'insupportable, parce que le secret, c'est supporter que l'autre ait des secrets. Que l'autre, finalement, on ne sache pas très bien quelle est sa petite cuisine pour, je sais pas, par exemple, pour faire une bonne recherche, pour bien soigner, comment il fait dans sa classe avec ses élèves, là, que, bon. Et donc, ce que nous promet l'évaluation, comme par hasard, c'est la transparence. Ça, on l'entend toujours. Ça fait partie, justement, de cette idéologie. C'est grâce à l'évaluation, il y aura enfin de la transparence. La transparence qui est censée, en soi, être positive. Sauf que, derrière cette demande de transparence, il y a plutôt le besoin de supprimer les secrets de l'autre parce qu'on soupçonne toujours que l'autre, il manigance des trucs derrière notre dos et qu'il en profite. C'est-à-dire plutôt que de considérer le secret comme ce dont a besoin chacun pour faire son travail, eh bien, ça va plutôt être à partir de là qu'on va le soupçonner d'en faire moins, voilà. Et donc derrière la demande d'évaluation, c'est être évalué soi, mais aussi que l'autre soit évalué, finalement. Voilà.
C'est terrible. mais tout ça renvoie à la question de la reconnaissance, de ce désir d'être évalué, est-ce qu'il n'est pas lié au désir de, au besoin de reconnaissance. Tu fais des liens entre l'un et l'autre.
Oui, je fais des liens. Là aussi, c'est parce que, pendant que je réfléchissais au sujet, très souvent, donc quand on me demandait « Alors, sur quoi tu travailles en ce moment ?» j'essaie de comprendre pourquoi les gens veulent être évalués. On me disait toujours « Ah, mais c'est évident, c'est parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. » Bon, alors là, j'aurais pu me dire, ok, bah, puisque tout le monde connaît la réponse, autant arrêter tout de suite de réfléchir au sujet. Bon, ça m'a effleuré. Mais après, je me disais quand même, c'est étonnant cette idée, enfin, comme si c'était une évidence. Voilà, donc j'ai réfléchi à cette question-là. Et j'en arrive à la conclusion que finalement, l'évaluation, c'est le Canada Dry de la reconnaissance. C'est-à-dire, c'est une fausse, en fait, opération de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que bon, déjà la reconnaissance, on sait très bien que c'est quelque chose d'impossible. Enfin, si on pouvait régler une bonne fois pour toutes la question de la reconnaissance, on n'aurait pas besoin d'être quand même régulièrement relancé par ce besoin de reconnaissance. Bon. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien en psychanalyse, c'est que la reconnaissance, c'est une question qu'on ne peut jamais régler. La seule chose qu'on peut faire, donc c'est un peu comme on pourrait dire la reconnaissance, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Il est toujours ouvert, ça fuit toujours quelque part. Bon. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de mettre un bouchon qui fait que ça ne va pas trop fuir. Et ce bouchon, c'est... donc là aussi, c'est, je m'appuie sur les travaux de Lacan, c'est que si on a une place dans l'ordre symbolique, des places, parce qu'on n'a pas qu'une place dans l'ordre symbolique, mais si on a un certain nombre de places dans l'ordre symbolique, ça nous donne suffisamment de stabilité identitaire pour nous, ça nous rassure un peu pour que psychiquement on passe pas toute notre énergie à vouloir être connu. Donc avoir une place, c'est quoi ? Ça commence même avant notre naissance, c'est avoir un nom, un prénom, c'est être le fils d'eux ou la fille, ou le fils de ou la fille d'eux, c'est être le mari ou la femme d'eux. Et puis dans le travail, c'est être enseignant chercheur, maître de conférence, professeur dans telle université, c'est être responsable des ventes, directeur commercial, enfin voilà. Il y a des fonctions qui nous donnent une certaine place. Sauf que on est dans des organisations dans lesquelles on efface de plus en plus ces places-là. On parle de flexibilité, de polyvalence, ces organisations sont en permanence réagencées. Et on nous dit, donc ce qui fait un peu, commence à faire un peu brûler le besoin de reconnaissance, puisque ça, il y a une sorte de disparition du cadre symbolique. Et l'évaluation vient aggraver les choses, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'évaluation ? Vous n'avez pas une place a priori, vous avez une position a posteriori, et cette position est toujours relative. Elle dépend du résultat que vous avez obtenu dans cette compétition. Donc à chaque séquence de compétition, Et dans certains métiers, les séquences sont très fréquentes. Ça peut être parfois quotidien. Je pense dans la grande distribution, par exemple, tous les jours, ils regardent chaque rayon, a les résultats de tous les rayons équivalents de tous les magasins de France. Par exemple, s'il y a 150 magasins tous les jours, vous savez où vous êtes, vous, parmi les 150 magasins. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, etc. Mais à chaque nouvelle séquence, de chaque nouvelle séquence, dépend de votre résultat, dépend la position où vous allez être, qui est toujours une position relative. Et là, c'est pas du tout symbolique. On n'est pas du tout dans le système symbolique. Puisque cette position, elle est effacée dès le lendemain, puisque dès le lendemain, on repart à zéro. Et donc, ça fait flamber le besoin de reconnaissance. Hein, puisque là, on n'est pas dans du symbolique. Et donc, comme ça fait flamber le besoin de reconnaissance, il y a à nouveau ce besoin de dire, mais qui je suis, où je suis, dites-moi quelque chose de moi. Et c'est ça qu'on attend du prochain chiffre qui va tomber, qui est censé nous dire finalement où on est, qui on est, si on est bon, pas bon, etc. Voilà, donc c'est finalement une fausse opération de reconnaissance. Hein, et c'est même une fausse opération de reconnaissance qui aggrave encore plus la demande de reconnaissance.
C'est ça qui pourrait expliquer voilà. Ce qu'on appelle le burn-out.
Le burn-out, c'est assez multifactoriel. Hein. Le burn-out, c'est un contexte organisationnel, c'est souvent une pression, c'est la difficulté souvent psychique à lâcher un peu par rapport au travail. Enfin, je pense qu'on ne peut pas réduire la question du burn-out à la question de l'évaluation.
D'accord.
Oui ?
Moi, je voulais te demander, moi je suis dans le travail social, tu vois, et sur la question de l'évaluation, en fait, on demande aux institutions de créer leurs propres critères.
Ouais.
Et donc, je me disais, en même temps, c'est intéressant, parce que sur ce besoin de visibilité du travail social, c'était l'opportunité de rendre visible. Mais avec ce que tu es en train de dire, je me dis, est-ce que c'est pas effectivement un piège encore pire que d'avoir des critères qui sont construits par les autres d'une certaine façon. Parce que là, c'est un peu piéger soi-même, peut-être.
Oui.
Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui. Oui, parce que finalement, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'évaluation, justement, elle se diffuse par ces techniques-là. C'est-à-dire, elle ne tombe pas comme un coup près, comme ça. En général, ils sont très gentils, les gens qui vous proposent l'évaluation. Justement, ils disent d'abord, on va y aller soft.
On nous demande de créer les outils.
On est
des guides de bonnes pratiques.
Voilà.
L'auto-évaluation.
Donc voilà. Donc ils vont dire, on est gentil, vous voyez, on vous impose rien. Mmh. C'est vous qui allez nous dire quels critères il faut vous évaluer. Alors là, ça rentre dans le premier groupe de causes dont je parlais au début, qui sont des causes finalement assez plutôt d'ordre narcissique.
Oui, tout à fait.
C'est très narcissisant. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire que depuis que le bouquin est sorti, j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai eu des mails, des mails très très positifs, et quelques mails de gens qui ont l'air très très vexés, ouais, ouais. Et qui sont des évaluateurs, ou des gens qui ont une place importante dans les systèmes d'évaluation, dont des gens qui me disent, oui, mais vous savez, moi, ils n'ont pas lu le livre, hein, ils ont entendu à la radio, ou ils ont lu des articles, il y a eu pas mal d'articles de presse, ils me disent, ouais, vous savez, personne n'a imposé l'évaluation, on s'est tous réunis, et voilà. Et moi, c'est ça justement que je décris, c'est cette espèce... C'est pas violent en apparence, l'évaluation, la manière dont ça s'introduit, c'est toujours... dites-nous quelles sont les personnes qui sont très compétentes, qui justement pourront nous dire comment... sur quels critères il faut évaluer, etc. Donc
c'est très violent dans le travail social quand même.
Bien sûr que c'est très violent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez valorisant. Puis il y a des gens qui d'un seul coup vont avoir un rôle reconnu parce que après ils vont participer au groupe de travail. Voilà. Puis après c'est ceux-là qui vont aller évaluer les autres. Alors bon, ce qui évidemment veut dire qu'ils ont beaucoup d'expérience. D'ailleurs, vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans la santé, les commissions d'évaluation, enfin, ceux qui définissent et ceux qui vont évaluer dans les hôpitaux, c'est bourré de vieux en retraite qui ont 70 ans. Enfin, je suis désolée, non, il n'y a pas de... C'est bon, je n'ai pas dit trop de bêtises, mais... Et ce que je trouve fou, ce sont des médecins qui, eux-mêmes, étaient très contents de travailler dans une culture qui n'était pas cette culture de l'évaluation et qui sont les premiers... à aller imposer les soi-disant bonnes pratiques, machin, et aller évaluer leurs jeunes collègues, sur des trucs que, enfin, dont eux-mêmes ont été très contents pendant toute leur carrière de pas être coincés par ça. Et c'est des personnes qui sont vraiment très valorisées parce qu'en général ils sont plus vraiment en activité. Et ils se sentent très valorisés parce qu'ils ont l'impression que, voilà, eux, ils peuvent évaluer parce qu'ils ont l'expérience et qu'ils jouent encore un rôle dans le système. Donc, enfin, en tout cas, ce que tu poses là, c'est très important, c'est de remarquer qu'en général, ça commence par là. Une forme de séduction,
oui,
c'est...
Oui,
voilà.
C'est, ça, ouais.
Et c'est pour vous aider.
Voilà, c'est pour vous aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence... Et c'est ça que je trouve terrible, c'est que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de l'évaluation, après, on met... À un moment, on y est jusqu'au cou. Et ça se fait par petites touches progressives. Donc, ça commence par ça, ça commence aussi par... On va faire des expériences. Voilà. Et puis, rassurez-vous, on pourra changer les critères.
Ben là, du coup, l'évaluation externe, c'est... On évalue les outils que vous avez construits,
voilà.
Et on évalue la qualité de travail, quoi. Donc, il y a
voilà.
Presque une double évaluation.
Ouais. Et on se met tout seul dans la gueule du loup, finalement.
Bah, du coup, voilà. Oui, c'est une très
ouais.
Bonne question.
Ouais.
Quelle stratégie ouais. On peut...
Tout à fait. Bah, d'ailleurs, enfin, je pense qu'on peut passer aux questions.
Bah, peut-être dire, parce que madame parlait de stratégie. Quelle stratégie, point d'interrogation.
Pour en sortir.
Quelle stratégie, justement, point d'interrogation.
Alors,
c'est quand même un domaine que tu abordes. Oui,
oui, mais justement, quelle stratégie? Effectivement, c'est un mode d'exploitation à outrance de la force de travail dans un modèle libéral, comme il était dit tout à l'heure. Enfin, moi, je suis syndicaliste, donc dans une grande entreprise, donc, je vois aussi les dégâts que peuvent faire ces systèmes d'évaluation. Mais des cadres, ou des cadres supérieurs, pour l'informatique, 55 ans, on lui dit vous êtes has-been, et ça fait 25 ans qu'il a construit un tas de choses, et il n'est plus bon à rien, il vient te rendre votre bureau. Donc effectivement, et en même temps, c'est construit sur des éléments qui sont difficilement appréhendables, et qui sont des leviers enfin, de la reconnaissance narcissique, etc. C'est un peu compliqué, mais on est quand même sur une évolution importante avec des conséquences sur 10-20 ans. Et donc effectivement, moi, ma question aussi, c'était par rapport à ça, où par exemple, moi, dans le monde syndical, je pense, d'ailleurs, même dans les grandes entreprises qu'on a vu à la Poste, etc., où c'était quand même des entreprises avec des histoires, avec des bastions historiques de syndicalisme, comme certains diraient, on voit quand même une faiblesse de l'organisation pour réagir par rapport à ces situations. Et ma question, c'était effectivement, quel chemin entrevoir par rapport à ça aussi. À un moment donné, est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience collective, ou effectivement, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'on pourrait entrevoir comme sortie du système,
alors,
si sortie du système dit...
Ouais, alors déjà, moi je pense que la première possibilité de s'en sortir, c'est déjà d'être conscient de ces mécanismes de séduction de l'évaluation. Par exemple, les syndicats, enfin les IRP en général, les instances représentatives du personnel, elles ont vraiment un rôle à jouer pour s'opposer à l'évaluation. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné quand j'ai cherché, je me suis attaquée à ce sujet, c'est le faible nombre de cas dans la jurisprudence où les IRP vont attaquer, enfin les instances représentatives du personnel vont attaquer leur direction sur le système d'évaluation. Il y en a très très peu quand vous regardez la jurisprudence. Et quand c'est fait, quand c'est attaqué, c'est pas sur le fond du système d'évaluation. Il n'y a que 6 cas. En fait, j'ai recensé 6 cas seulement dans lesquels c'est une attaque sur le fond, sur le principe même du système d'évaluation. C'est des cas qui ont été assez médiatisés, Airbus... il y a eu là récemment les caisses d'épargne, PACA, voilà, alors, avec un avocat lillois d'ailleurs, Stéphane Ducrot. Ouais. Bon. Mais sinon, il y a donc 6 cas, c'est rien du tout en France quand on voit le nombre gigantesque d'entreprises dans lesquelles on met ça en place. Les cas sur lesquels il y a jurisprudence, c'est plutôt sur la forme, c'est. Oh, on n'a pas consulté le CE sur le système d'évaluation, donc voilà, il faudrait, et le CHSCT non plus, alors que ça peut avoir un impact sur la santé, mais si ça a un impact sur la santé, il ne faut pas contester sur la forme, il faut contester sur le fond, ce qui en général n'est pas fait. Et pourquoi? Parce que les syndicalistes eux-mêmes sont victimes de ça. On leur dit, alors justement, ils réclament à être associés au processus. Donc une fois que vous mettez le CHSCT dans le coup, vous leur dites, mais aidez-nous à construire des critères pertinents sur les métiers parce que vous connaissez bien les gens, etc. Vous connaissez bien. Ben voilà, ils rentrent dans le truc et ils sont piégés. Et alors, il y a des syndicats, par exemple, la CFDT, enfin, je ne sais pas dans quel syndicat vous êtes, enfin, je ne veux pas vous... Peut-être la CFDT, non. Mais ben, par exemple, bon, le seul syndicat sur lequel je trouve il y a un certain, un peu plus de recul, c'est par exemple la CGT, mais la CFDT, ben, moi, j'ai entendu quelqu'un qui a des fonctions importantes à la CFDT dire, justement, et ça, ça m'avait choqué, et ça, enfin, ça m'a aidé à réfléchir, mais il disait, mais finalement, les gens ont besoin de reconnaissance. Donc il faut ces systèmes d'évaluation, quand même, ça permet de répondre à la problématique de la reconnaissance. Et voilà, et donc je pense que, enfin déjà, si les instances représentatives faisaient leur boulot, parce que légalement, elles peuvent agir là-dessus, et la preuve, c'est que ceux qui l'ont fait, les rares qui l'ont fait, commencent à avoir gain de cause. Hein. Il y a le cas, la caisse d'épargne, donc eux, ça aboutit à ce que la direction doit carrément retirer son système d'évaluation. Il y a deux affaires qui sont... donc là, c'est au niveau... il y a une des deux parties qui a fait appel. Il y a trois cas qui sont en instance de jugement. Mais les IRP ont vraiment leur rôle à jouer là-dedans. Et je pense que... Voilà, la condition pour qu'ils le jouent, ce rôle, c'est que les syndicalistes eux-mêmes se laissent pas prendre au piège de l'évaluation. Bon. Et après, ça nous concerne, je dirais, chacun d'entre nous, c'est de faire attention à tous ces mécanismes qui font qu'on va être séduit, qui font que finalement on va y participer, qui font qu'on va être quand même bien content de savoir que monsieur Trucmuche, qui fait rien dans le service, voilà, on pense qu'enfin la vérité va surgir. C'est arrêter de penser que demander la transparence est toujours pour de bonnes raisons. Voilà, c'est pour ça. Enfin, moi, je m'intéresse plutôt à l'aspect psychique en disant, pour résister, encore faut-il avoir envie de résister. Et pour avoir envie de résister, encore faut-il comprendre ce qui nous amène à mettre le doigt dans l'engrenage.
Et ça suppose aussi de pouvoir distinguer entre l'évaluation telle que tu en parles et une évaluation qui renvoie, pour moi, renvoie à l'idée de qualification et qui inscrit le travail dans une histoire, une stabilité.
Exactement.
On peut se reconnaître.
Ouais.
Ça, c'est du boulot.
Ouais. Oui. Par exemple, en recherche, nous, ça fait très longtemps, l'évaluation, quand on est dans des jurys de thèse, quand on est quand on évalue à l'aveugle des articles pour publication, quand on est dans des comités de lecture pour des livres, etc. Enfin, voilà, on sait ce que c'est que l'évaluation. Mais c'est pas la même évaluation dont je parle qui finit par tout centraliser autour de un, deux indicateurs et dont devrait dépendre. Alors, moi, je suis absolument contre le fait qu'on rémunère, on donne des primes aux chercheurs en fonction des publications qu'ils font. Enfin, je trouve ça complètement... On est payé pour notre travail. On n'a pas à avoir la carotte et le bâton. Ça aussi, c'est résister. Parce que les syndicats, très souvent, disent « Oui, mais il y a une demande des gens. » Les gens voudraient avoir des primes, ils voudraient... Mais oui, mais c'est leur montrer que tout ça, ça mène quand même à une catastrophe collective, c'est-à-dire à une compétition stérile où tout meurt, à la fin, tout le monde est perdant, en gros. Hein. C'est ça, le système libéral, c'est qu'à la fin, enfin, pas tout le monde, justement. Mais vous avez 99% de perdants pour 1% de gagnants.
Mais la question aussi, c'est comment refonder du collectif, alors.
Ouais.
C'est des systèmes très individualisants, en définitive.
Rapport au collectif et également les aspects éthiques, éthiques des métiers.
Oui.
Il y a aussi, enfin, je pense, une certaine dérive au niveau de l'éthique, parce que dès qu'on rentre aussi dans ce système d'évaluation compétitif, bon...
Ouais, on parle plus des métiers. C'est-à-dire qu'en effet, dès qu'on commence à rentrer là-dedans, on n'a plus à, entre guillemets, à perdre de temps. En fait, c'est du temps finalement qui est important. Mais on n'a plus à passer de temps à discuter de qu'est-ce que c'est que notre métier, comment on a envie de l'exercer, qu'est-ce qui est important, comment on entend le pratiquer. Parce que là, c'est chacun, c'est son objectif. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Voilà. Et à la fin, on regarde où en est chacun sur sa ligne, sur son couloir, comme à l'athlée, quoi. On a l'impression que... Voilà. Donc, ça nécessite, en effet, combattre l'évaluation, de remettre du collectif, de remettre des temps où on peut parler de ce que c'est, que ce métier qu'on fait, comment on l'envisage, etc. Mais c'est repenser pas mal de choses, en fait.
C'est un métier.
Ouais.
Il y a beaucoup de boulots qui ne sont pas des métiers tels que tu l'entends. Il y a des emplois avec peu de contenu et le challenge et l'individualisation de l'évaluation, ça peut peut-être aider aussi. à donner du sens, non?
Non, ça ne donne jamais de sens. Ça, c'est... Non, parce que finalement, c'est du faux sens, voilà. Ouais, mais on sait bien qu'à part... Oui, sauf que les médailles de Laure Manoudou, je pense qu'elles ont quand même plus de sens que justement les petits trucs qu'on distribue. Ça peut être par exemple, enfin je sais pas, c'est des challenges où à la fin vous gagnez une bouteille de champagne et puis en même temps l'intéressement de tout le monde va baisser. Enfin voilà, c'est ça qu'on observe. Donc c'est pas tout à fait pareil que avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Enfin bon, justement, on est vraiment dans la pacotille en fait.
Mmh. Oh. Oui.
Oui,
j'avais une question par rapport à l'éducation nationale. Vous ne trouvez pas justement que ça nous entraîne à être dans cette compétitivité, dans cette évaluation? Parce que par exemple, pour le bac, et ben, ceux qui ont la mention très bien, ils obtiennent parfois une bourse au mérite, etc.
Alors, je trouve que ce n'est pas pareil, justement. Je trouve que ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est là que c'est intéressant. Alors, bon, moi, je serais pour des méthodes. Moi, j'aime bien tout ce qui est pédagogie alternative, etc. Je ne peux pas dire que le système de l'éducation nationale, soit, surtout en France, soit le meilleur système. Il y a d'autres pays, je pense à, par exemple, la Finlande, enfin, d'autres pays où, justement, on est beaucoup moins dans ces notations systématiques et en même temps, ils ont les meilleurs résultats quasiment du monde quand on fait les évaluations internationales. Mais donc, je ne dis pas que le système de l'éducation nationale est parfait, je ne dis pas du tout ça. Mais là, on est quand même dans une forme d'évaluation qui crée du symbolique. C'est-à-dire, avoir la mention très bien au bac, ce n'est pas rien. Si vous avez la mention très bien au bac, il y a peu de chances que vous ayez été un très très mauvais élève pendant votre scolarité. Non, en général, il y a une corrélation.
Et puis il y a une chose importante, personne ne vous l'enlèvera jamais.
Voilà, personne ne vous l'enlèvera jamais, ça fait partie de votre histoire. Donc il y a une inscription symbolique qui peut justement vous permettre d'avoir une bourse. Ça, vous le savez à l'avance. C'est pas comme cette espèce de politique de la carotte et du bâton où à chaque fois, on vous dit, bon, allez, hop, on met les compteurs à zéro et mon petit gars, t'as peut-être eu le bac avec mention très bien, mais là, on s'en fout. Là, t'es comme les autres. Et puis, vas-y, cours comme un dératé et on va voir. Et c'est peut-être pas toi qui va arriver en tête. Bon, voilà. Donc, justement, il faut distinguer des systèmes qui sont quand même des systèmes où il y a du symbolique et les systèmes dans lesquels on est, globalement, qui sont des systèmes où, qui sont très destructeurs parce qu'il n'y a plus du tout de symbolique et donc il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus... Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Par contre, ce qui est catastrophique dans l'éducation nationale, ce qu'on a fait y avoir, c'était... Il y a eu tout un débat il y a à peu près un an parce que l'ancien gouvernement voulait vraiment mettre en place, voulait complètement réformer l'évaluation des enseignants. Ce qu'il voulait vraiment développer, c'était l'évaluation par le chef d'établissement et plus l'évaluation par l'inspecteur. Et sachant que derrière, ce qui se profilait, c'était que l'évaluation du chef d'établissement soit lié à l'évaluation des profs, aux notes obtenues par les profs, et qu'à la fin, les collèges et les lycées soient évalués en fonction des résultats au bac, et qu'il y ait toute une cascade comme ça, où en fonction des résultats au bac, vous avez l'évaluation des enseignants, l'évaluation de l'établissement et du chef d'établissement, et que derrière, il y ait le budget de l'établissement, les moyens attribués à l'établissement qui soient donnés. Et non pas dans le sens où là où il y a des difficultés, on met plus d'argent, mais plutôt l'inverse. C'est que si vous avez des mauvais résultats au bac, c'est que vous êtes moins méritant, donc vous allez avoir moins d'argent. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est un exemple que je développe dans le premier chapitre. Aux États-Unis, les établissements sont vraiment évalués en fonction des résultats des élèves au test, qui, du coup, c'est là-dessus que vont être évalués et rémunérés les enseignants. Ils ont des primes variables en fonction des résultats au test. Et pareil au niveau des établissements qui, du coup, vont avoir des moyens en fonction de ça. Et donc là, on est vraiment dans l'évaluation en cascade comme ça qui devient absolument terrible.
Oui. J'ai une dernière question un peu provocatrice peut-être, je ne sais pas. Donc on comprend bien qu'il y a instrumentalisation un peu de la psychanalyse, quoi, un petit peu par un système de management donné, donc qui tient compte finalement de l'état des connaissances également de ces aspects psychanalytiques. Et je pense qu'une deuxième chose également, c'est les aspects technologiques. Parce que ces indicateurs, il faut aussi les manipuler avec... alors, à la main, ce n'est pas tellement possible. On a aussi un développement lié à l'informatique, je pense, qui permet de réaliser ces évaluations.
Ah ben bien sûr.
Et donc, il y a une connexion quand même très forte entre l'avancement de l'état des connaissances scientifiques et techniques et également les possibilités de développer ces outils-là.
Ah, vous avez tout à fait raison. C'est que ce qui a permis le développement, alors certes c'est notre adhésion subjective, mais c'est aussi le développement formidable de la technologie. Par exemple, pour les chercheurs, ce qui a abouti à ces H-index, c'est que d'un seul coup, ça s'est pas fait par hasard, c'est que les éditeurs de revues ont créé de gigantesques bases de données, qu'ils ont intérêt à ce que, et là on a quelqu'un qui connaît très bien le sujet, c'est que donc ils ont créé de gigantesques bases de données, ils ont intérêt à ce que les chercheurs consultent leurs revues plutôt que d'autres, parce que derrière ils vont pouvoir faire payer plus cher les abonnements aux bibliothèques. Donc tout le monde a intérêt aussi à ce que... Et donc pour que la revue soit plus connue, il faut que les meilleurs chercheurs publient dedans, qu'il y ait plus de citations, etc. Et donc tout ça s'est rendu possible par la technologie, c'est-à-dire que parce que vous avez justement ces gigantesques bases de données qui vous calculent instantanément le taux de citation croisé, machin, c'est des calculs mais monstrueux. Maintenant, ça peut être fait quasiment instantanément. Sachant qu'évidemment, ce qu'on ne garde pas, c'est déjà au départ la qualité de la base de données. Comme par hasard, c'est des bases de données qui sont quasiment que anglo-saxonnes, qui vont donc exclure toutes nos petites revues françaises et tout, si vous avez des gens qui ont le même patronyme, etc., ben, du coup ça va augmenter leur H-index, parce que mais ça on s'en fout, à la fin ça donne un chiffre et tout le monde est content. Mais c'est vrai que le développement de l'informatique permet vraiment, et technologique permet vraiment, vraiment ça.
Ouais. Est-ce qu'il existe des secteurs où ce système d'évaluation n'arrive pas à s'imposer?
Hier justement j'étais à la radio pour parler du livre, et donc après les journalistes sont venus me parler, donc moi je leur disais, et vous alors, vous c'est comment dans... Alors ils me disaient que pour l'instant ça allait, bon, mais c'est France Inter, donc France Inter c'est radio publique, enfin bon, mais ils me disaient que par exemple dans la presse écrite, et ça m'a été confirmé par d'autres journalistes, que dans la presse écrite ils commencent à être évalués en fonction du nombre de mots qu'ils crachent, y compris dans des grands journaux, en fait. Donc ça commence, tu vois, ça commence.
Ça s'imposer dans ce domaine.
Oui, si ça s'impose, si ça se développe dans la recherche ou dans la santé, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas.
Chez les bergers du Larzac, par exemple.
Ah, ça, je sais pas. J'ai pas enquêté sur les bergers du Larzac. Mais peut-être plutôt ceux des Pyrénées, parce que moi, j'ai plutôt dans les Pyrénées que dans le Larzac, mais...
Quand on met des puces,
il y a taux de mortalité, poids moyen,
quantité de lait, des taux de production du lait par les brebis, enfin je sais pas, je te dirai la réponse dans... Bon. Il faut encore quelques années de recherche, je pense.
Peut-être dans les métiers où on travaille la matière, où il y a un vrai métier, où il y a une transformation de la matière avec un accès direct de l'individu à la matière pour la façonner, ou son savoir-faire est cristallisé sur l'objet qu'il façonne. Ouais, et là, c'est d'autres critères qui entrent en compte. C'est peut-être un peu marxiste comme conception d'une forme de libération du travail qui passe par la praxis. Mais je crois que effectivement, l'abstraction progressive du travail contribue, enfin, rend les choses plus faciles en tout cas.
Enfin, après, il reste les ventes. La cote de l'artisan ou de l'artiste, le nombre de clics sur Internet sur le tableau du peintre.
Par exemple, quand vous allez au théâtre, alors moi, ça ne m'est pas encore arrivé, non pas d'aller au théâtre, mais ça ne m'est pas arrivé de vivre ça, mais c'est ce qu'on... Quelqu'un m'a raconté ça aujourd'hui, c'est qu'il était allé au théâtre, et à la fin, les artistes, après s'être fait applaudir, ont dit, et s'il vous plaît, aller mettre sur Facebook, faire le truc liker, sûr. Là, c'est ça, ça s'appelle comme ça, et liker, oui, enfin, donc c'est j'aime. Cliquer, voilà.
Non, mais...
Parce que comme ça, plus on aura de clics et plus on pourra se défendre pour avoir des subventions. Enfin, ben voilà.
Mais c'est leur faire de la pub aussi, peut-être.
Oui, mais on peut toujours. Voilà, sauf qu'on est complètement dans ce système.
Oui, mais il faut prendre ce système-là, parce que c'est ce système-là que tu utilises.
Parce que nos amis likent des choses, après ça apparaît sur notre mur, donc du coup ça leur fait peut-être de la publicité aussi.
Non, mais le but c'est ça. Le but c'est ça, sauf que derrière, l'idée c'est d'utiliser ça pour avoir des subventions, etc. Alors que il me semble que c'est pas ça qui devrait être le critère pour lequel on devrait attribuer des subventions à un théâtre, par exemple. Mais enfin, tout ça pour dire, je pense que ouais, ça se développe quand même partout. Enfin...
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un faux système d'évaluation qui s'aborderait le système?
Bah alors lequel? Alors Jacques, vas-y, dis-nous, on va réfléchir, mais...
Ça m'intéresse.
Ça m'étonne pas de toi.
Bah, y a les hackers, déjà, avec ces personnes qui inventent des faux chercheurs. Et...
Oui, voilà.
Ouais. C'est sur le ton de l'ironie, là, mais bon.
Non, mais c'est vrai, c'est que si on faisait ça massivement, mais pour faire ça, pour résister massivement, encore faudrait-il justement être convaincu qu'il faut résister. Mais après, on pourrait s'amuser, ouais. Bon, bah merci à tous d'être venus, merci, ça m'a fait plaisir. Continuer ces échanges. Merci à Thomas et merci à Thibault.